Eh bien, bonjour tout le monde. C'est le fun de vous voir ce matin. Oui, c'est ça, j'ai quelques annonces avant de commencer ma prédication. On a été vraiment bénis cette semaine avec la levée de fonds Love in Motion. On a eu notamment deux dons de deux églises, Fairview Alliance plus l'église vietnamienne de Montréal. Les deux dons totalisent 800 $, donc ça aide beaucoup notre équipe. Et on a aussi eu d'autres dons d'individus qui ont été généreux. Donc, ça nous amène à 5 137 $. Donc, on se rapproche de notre objectif de 6 000 $. Et c'est vraiment encourageant, alors qu'on va commencer dans une semaine, de voir qu'on est quand même près de ce qu'on visait comme objectif. Donc, merci encore une fois à tous ceux et celles qui ont donné. Pour Love in Motion, j'ai reçu un appel de Michael Gagnon cette semaine qui demandait de l'aide pour héberger et pour transporter des cyclistes qui vont arriver samedi prochain. Donc, j'ai fait une petite liste ici. Si vous pouvez, samedi le 16 août ou bien dimanche le 17 août, héberger quelqu'un dans votre maison, ce serait apprécié. Il va y avoir des personnes qui vont chercher un endroit où dormir. Et aussi, dans la fiche que je vous ai donnée, il y a une case pour le transport. Ils vont arriver à Terrebonne. Si vous pouvez aller les chercher pour les apporter au lieu où est-ce qu'ils vont dormir, ça serait vraiment apprécié. Donc, c'est ça, je fais passer ça. Ouais, ils vont avoir leur bicyclette. Donc, il faut penser à... vous avez un rack à vélo ou bien une van, ça pourrait aider. Mais oui, il faut tenir compte de ça, là. Mais c'est ça, si vous pouvez juste héberger, mais vous pouvez pas faire le transport, c'est déjà beaucoup comme aide, ça va vraiment être apprécié, et vice-versa. Si vous pouvez juste faire le transport, mais vous pouvez pas héberger, ça va aider. Il y a 22 cyclistes le samedi et 40 le dimanche. J'imagine, mais vous partez d'ici le dimanche, right? Fait que vous dormirez pas à moi. Je sais pas comment Michael a fait les calculs, mais c'est ce qu'il m'a dit. Donc, mais on n'est pas la seule église qui va aider à ce niveau-là. Là, ça repose pas tout sur nous, mais si on peut aider en partie, ça serait vraiment apprécié. Donc, je vous passe ça. Volez-moi pas mon livre, là. C'est ma petite tablette improvisée. Donc, bonne nouvelle aussi. Le site web de l'Oasis est maintenant en ligne. Fait que après une longue attente, moi et Pascal, on a mis ça en ligne. Puis vous irez voir ça. Le lien, c'est oasisacm.org. Donc, un beau petit site. Et puis, là-dessus, vous allez voir les prédications notamment. Ça peut être intéressant pour vous d'aller entendre les messages si vous n'avez pas pu être là le dimanche matin. Et des événements, etc. Puis il y a des liens intéressants. Donc, vous irez voir ça. À part de ça, une moins bonne nouvelle. Notre sœurette Laurie Anger va nous quitter. Elle va aller à Rimouski pour étudier là-bas à l'université. Donc, c'est triste, on va la perdre. Ça va être vraiment une belle année de cheminement avec toi, Laurie. Merci pour tout ce que tu as apporté au niveau de la jeunesse, notamment, tu t'es investi là. Ça a été vraiment bénissant de t'avoir, puis on te souhaite vraiment du succès dans tes études, que ça te bénisse là-dedans. Et puis, donc, allez la voir. C'est peut-être son dernier dimanche. C'est possible qu'elle soit pas là dimanche prochain, avant qu'elle parte. Donc, allez la voir si vous avez la chance. Donc, c'est ça. Avant de commencer la prédication, j'aurais à cœur de prier, qu'on prie en tant qu'assemblée concernant les situations qu'on voit se passer dans le monde. Et puis, des fois, à force de les voir, de voir les guerres, de voir les atrocités, on peut juste comme prendre ça pour comme la normalité et puis presque s'endurcir. Mais comme j'aimerais vraiment qu'on prie pour la situation qu'il y a en Irak, où est-ce qu'il y a des chrétiens, par exemple, qui sont persécutés. Mais il y a aussi un groupe ethnique appelé les Yazidis. Ils sont persécutés par des groupes djihadistes, des personnes qui veulent imposer l'islam. Donc, ils sont chassés de leur maison, ils doivent abandonner tout leur bien, leur possession, leur travail. Et puis, du jour au lendemain, ils sont comme des sans-abri, si on veut, et ils doivent survivre. Et il y a même des femmes qui sont kidnappées et enlevées. Il y a des enfants qui sont tués. Vraiment des situations atroces. et également la situation entre Israël et Gaza, qu'on puisse prendre cette situation internationale et puis, des fois, on peut se sentir impuissant, mais qu'on prenne le temps de prier pour ces situations-là et qu'on remette ça entre les mains de Dieu, que lui puisse intervenir par les acteurs qui ont vraiment l'influence et qui pourront faire une différence en place. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait prier pour ces deux situations-là? OK, moi, vas-y, Marc. Donc, commençons. Parfois, j'ai des drôles d'idées. Cette semaine, notamment, j'ai eu l'idée de faire une recherche Google sur moi-même. Je voulais en apprendre plus sur moi, fait que j'ai demandé à Google. Pascal me disait la semaine passée que Google est ce qui se rapproche le plus de Dieu en frais d'omniscience. Fait que j'ai dit, OK, on va voir qu'est-ce que Google dit sur moi-même. Et je suis tombé sur ce site, nosorigines.qc.ca. Et puis là, j'ai vu mon arbre généalogique et je trouvais intéressant de voir ça. En fait, regardez, j'ai même une image. OK. Donc, la première chose qui m'a frappé, à part le fait que Elsa, à droite, c'est le carré bleu, c'est Elsa, et à gauche, c'est moi. Je ne sais pas si vous êtes capable de lire les infos. Est-ce que vous êtes capable de lire jusqu'au fond, Alex? Es-tu capable de lire, toi? Non, hein? OK, j'ai un zoom. J'ai un zoom tantôt. Ils sont inconnus. Révélation, le riz. Elsa est là-bas. Tes parents, c'est pas tes vrais parents. Non, c'est vrai. Bon, à part ça, ce qui m'a frappé, c'est... J'ai un zoom, là, ici. Boum. OK. Ce qui m'a frappé, c'est de voir dans un tableau, en même temps, ma date de naissance et de décès. Avec 5 petits points. Et là, je regarde, il y a une légende en haut à droite, là, je ne sais pas si vous voyez. Les cinq petites étoiles veut dire « information personnelle protégée par la loi ». Est-ce que ça veut dire que le gouvernement du Québec connaît ma date de décès? Je suis comme, j'aimerais bien savoir c'est quoi si c'est le cas. Ben, en fait, je suis pas sûr, mais... Mais autre chose qui m'a frappé dans mon arbre généalogique, c'est ceci. Ouais, OK, ça, je l'ai dit. Mais, en bas, information autre enfant et notes, etc. Bon, pour les notes, vous pouvez demander à Jean, Martin, c'est des A+ partout. Mais... Je trouverais que ça serait intéressant. Pour les enfants, on commençait avant d'avoir autre enfant, on va commencer par en avoir un. Mais dans le « etc. », il me semble que ça rendrait les arbres généalogiques beaucoup plus intéressants s'il y avait quelque chose comme « but de l'existence » ou « objectif de son passage sur Terre » ou « mission personnelle que cette personne avait ». Ça serait vraiment intéressant de voir, dans le fond, en une phrase, comment la personne résumerait sa vie alors que, dans le fond, elle passe dans les registres, dans la généalogie. Et si on pouvait, en fait, c'est ça la dernière observation que j'ai faite, c'est, regardez, il y a un onglet modifié. Donc, je pourrais aller et justement écrire d'avance ma propre vision. Et puis, je me suis demandé, qu'est-ce que j'écrirais si je peux cliquer modifier? Et là, je voudrais que, à la fin de ma vie, quand on regarde ma date de naissance, ma date de décès, et qu'on puisse faire un survol de toute ma vie, comment est-ce qu'on pourrait la résumer en une phrase? Quelle différence est-ce que j'ai faite sur la Terre? Et puis, par quelle vision j'ai mené ma vie, j'ai investi ma vie? Vous, qu'est-ce que vous écririez si vous aviez à cliquer sur « Modifier » et écrire « Ma vision personnelle, 2 points, voici ce que j'aimerais que ma vie... » laisse comme héritage ou comme impact. Donc, on veut pas gaspiller notre vie, on veut que notre vie dans son ensemble ait un impact, fasse une différence, qu'en bout de ligne, ça soit pas juste but de l'existence, rien ou inutile, ça servit juste à rien. Nous n'adhérons pas à la maxime biblique qui est plus décrite dans la Bible, là, mais « mangeons et buvons car demain nous mourrons ». Cette semaine, à l'étude biblique à Cloverdale, on a eu un bon temps ensemble. On était une belle gang. Et quelqu'un a dit, Dieu ne nous a pas créés sur la terre pour qu'on mange du McDonald's. Je trouve ça juste drôle. C'est la version moderne de mangeons et buvons car demain nous mourrons. Mais donc, on veut pas gaspiller notre vie. Ce serait tragique que, à côté de la ligne but de notre existence, on n'écrive rien. Fait que dimanche dernier, c'est ça, j'ai prêché sur une vision dans le Seigneur. C'est la partie 1. Aujourd'hui, c'est la partie 2. J'ai notamment partagé 3 points la semaine passée. Premier point, c'était la vision naît de nos valeurs. Exactement. Et plus précisément, d'une confrontation entre nos valeurs et la réalité. Comment est-ce que la réalité va à l'encontre de ce qui est important pour nous? Et ça, ça nous stimule à agir, à intervenir, à faire une différence. Deuxième point, c'était la vision se clarifie dans la prière. Et puis le troisième point, c'était la vision s'actualise par le courage. Donc ce matin, je veux continuer dans cette lignée-là. On va continuer aussi avec le livre de Néhémie. Et puis je veux qu'on réfléchisse ensemble sur notre vision, que ce soit dans une vue d'ensemble ou bien un peu plus au niveau micro. Donc comme quelle est la prochaine étape que Dieu m'appelle à faire dans ma vie? Ou comment est-ce que Dieu m'appelle à investir ces prochaines tranches, disons, de 5 ans pour moi. Et aujourd'hui, on va voir que la vision amène l'adversité, ça va nous demander d'être persévérants si on veut faire un impact pour Dieu. Et puis aussi que la vision, lorsqu'elle est enlignée avec d'autres personnes, lorsqu'elle est partagée efficacement, va vraiment produire un impact exponentiel. Donc, Petite citation avant de commencer à la lecture de Néhémie 2. La Bible affirme clairement que nous avons été conçus depuis le début afin de vivre pour une raison précise, pour un rêve, pour une grande idée, une mission personnelle. C'est le cas parce que nous avons été créés à l'image d'un Dieu qui planifie, qui a un projet. C'est le pasteur Greg Rochelle qui écrit ça dans le livre Kazon. Je trouve ça intéressant. Dans le fond, on écrit l'image de Dieu et le fait qu'on reflète le caractère de Dieu fait en sorte qu'on ait des êtres, qu'on a un besoin de vision, d'orienter notre vie dans un but précis. Donc, ceci étant dit, lisons ensemble Néhémie 2, versets 9 à 20. Je vous invite à quand même ouvrir vos bibles parce qu'on va faire référence plus tard au verset. On n'aura plus nécessairement le texte devant nous. Peut-être un petit résumé avant de commencer la lecture pour ceux et celles qui n'étaient pas là la semaine passée. Néhémie, c'est un Israélite qui fait partie des déportés. Donc, c'est environ en 440 avant Jésus. Et là, le peuple d'Israël avait été déporté au début en Assyrie. Et là, l'Assyrie passe aux mains des Babyloniens. Et là, éventuellement, les Babyloniens sont défaits par les Mèdes et les Perses. Et là, c'est ça. C'est l'Empire perse qui règne sur tout le Proche-Orient ancien. Et Néhémie est au service du roi dans son palais. C'est un rôle important qu'il a. Il est échanson. Un échanson, c'est quelqu'un qui sert à boire et à manger, mais c'est plus important. C'est pas juste un serveur, mais c'est une personne de confiance parce qu'il devait goûter la nourriture du roi pour attester qu'elle n'était pas empoisonnée, etc. Donc, c'est quand même une personne de confiance qui était au service du roi. Et puis, bien que Néhémie était assuse physiquement, spirituellement ou je pourrais dire émotionnellement, son cœur était pas là, il était à Jérusalem. Et puis, quand il a entendu des mauvaises nouvelles provenant de Jérusalem, il a été vraiment atterré. Et puis, il s'est mis à prier, s'est mis à chercher la face de Dieu. Et une vision est née dans son cœur. Et donc, on avait vu à la fin du message qu'il avait même été authentique devant le roi. Il avait laissé paraître sa tristesse. Et puis ça pouvait même lui coûter la vie parce qu'on pouvait pas paraître triste devant le roi. Et donc, finalement, le roi a eu à cœur le projet de Néhémie. Et puis, il lui a même dit, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Et là, Néhémie, après avoir prié, il est revenu et puis il a dit, ben j'aimerais que tu m'envoies vers la ville que j'étais en cœur pour la reconstruire. Et puis, c'est intéressant, cette semaine, j'ai remarqué que le roi dit, OK, dis-moi combien de temps ça va prendre. Et là, Néhémie, c'est écrit que Néhémie lui dit une durée. Et un peu plus tard dans le texte, on voit que la construction elle-même de la muraille va avoir pris 52 jours, mais la totalité du temps qui va avoir été parti, ça va être 12 ans. Fait qu'imaginez si vous demandez à votre patron un petit 12 ans là, pour faire vos projets là, dans le Seigneur. Et fait que c'est vraiment une grâce que Néhémie a eue par l'entremise du roi. Et puis, il a fourni tous les matériaux nécessaires. Il a donné les lettres pour son passage, etc. Donc, Néhémie quitte. Et là, on est rendu à ce moment-ci, dans Néhémie 2, verset 9 à 20. OK. Je me rendis auprès des gouverneurs des provinces de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi. Le roi m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sanballa le Horonite et Tobia le serviteur ammonite, l'ayant appris, prirent très mal le fait qu'un homme soit venu pour chercher le bien des fils d'Israël. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Et là, je vais garer ma manette. OK. Puis, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir indiqué à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que l'animal que je montais. Il n'a pas dit aux animaux non plus. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, dans la direction de la source du dragon et vers la porte du fumier, en inspectant les murailles de Jérusalem qui avaient des brèches et ses portes dévorées par le feu. Je passai près de la porte de la source et près de l'étang du roi, et il n'y avait pas de place où la bête qui était sous moi puisse passer. Je montai de nuit par le ravin et j'inspectai la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien raconté aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni aux autres qui avaient une fonction quelconque. Je leur dis alors, « Vous voyez le malheur où nous sommes? Jérusalem est détruite et ses portes sont brûlées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. » Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu était sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, « Levons-nous et bâtissons. » Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sanballa, le Horonite, Tobia, le serviteur ammonite, et Geshem, l'Arabe, l'ayant appris, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, « Que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? » Je leur fis cette réponse, « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. » Prions. Père Céleste, merci pour ta parole et pour ces vies qui ont été mises par écrit, ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu qui ont fait la différence en leur temps, Seigneur Dieu, en étant fidèles à l'appel que tu plaçais dans leur cœur. Et merci Seigneur de nous inspirer ce matin par ton esprit et de rendre vivantes ces paroles qui ont été écrites aussi pour nous. Et Seigneur, viens mettre en lumière dans nos cœurs ce que tu veux nous dire et puisse faire en sorte qu'on ressorte tous et chacun d'ici encouragé et puis stimulé dans notre foi avec une vision un peu plus claire de qu'est-ce que tu t'attends de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. OK, donc, premier point, la vision se renforce lorsque partagée adéquatement. C'est intéressant de voir dans le texte que la première chose que Néhémie a faite, c'est pas d'arriver à Jérusalem puis de partager à tout le monde ce qu'il avait à cœur de faire. Mais il était vraiment plus réfléchi dans son approche. Et puis, il a pris le temps, premièrement, il a pris 3 jours. C'est intéressant, le verset 11, un petit détail comme ça. Mais ça dit, Néhémie a pris 3 jours. Juste sans préciser aucunement à quoi ont servi ces 3 jours. Verset 11, j'arrivais à Jérusalem et j'y passais trois jours. Qu'a-t-il fait pendant ces 3 jours? Du tourisme, aller voir des amis que ça faisait longtemps ou aller au centre d'achat? Non, il s'est reposé. Ça ne dit pas le texte, mais on peut s'imaginer qu'après un long voyage comme ça, il s'est reposé. Probablement qu'il est venu se recentrer sur Dieu, qu'il est venu se baigner dans la prière, sachant que maintenant, ça allait être une étape importante de communiquer sa vision, communiquer ce que Dieu avait à cœur que le peuple fasse. Et puis, il s'est fort probablement centré sur le Seigneur avant de partager sa vision. Aussi, on voit dans les versets 13 et 15 que il a d'abord inspecté la muraille, puis il s'est répété deux fois, puis ça y va avec les détails, même son chemin de nuit, etc. Et il a pris le temps de reposer son jugement ou son approche sur des faits qu'il a lui-même vus et non pas juste le rapport de quelqu'un d'autre qui a dit à Nani des mois plus tard, « Ah ben, tout va mal. » Mais jusqu'à quel point tout va mal? Voyons-le de nos propres yeux. Regardons nous-mêmes la réalité en face. Et puis, en faisant ça, il gardait la vision pour lui et évaluait concrètement l'étendue de la tâche qui était devant lui. Il voulait être réaliste. Imaginez-vous si arrive le moment de communiquer la vision et là, sûrement qu'il y a tout le temps des sceptiques dans les groupes et d'autres diraient, ben oui, mais as-tu vu telle porte ou telle section, à quel point c'est détruit, à quel point le travail est immense? Et là, lui, s'il avait dit, ah ben non, j'ai pas vu, mais inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Toute sa crédibilité aurait été amoindrie. Et maintenant, il a pris le temps de bien inspecter la muraille, savoir de quoi il parlait. Et puis, avant de communiquer la vision, il avait fait ses devoirs. Donc, après un temps d'arrêt, premièrement, et après un temps d'observation minutieuse du travail à faire, il a rassemblé tout le peuple pour leur communiquer la vision. Puis, c'est au verset 17 qu'on voit ça, on peut le lire ensemble. « Je leur dis alors, vous voyez le malheur où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont brûlées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. » On voit qu'il appelle les autres à voir la même chose que lui, il voit. Peut-être que ça faisait 142 ans que la muraille était détruite à Jérusalem. En 142 ans, on a le temps de s'habituer à des murailles détruites. Mais Néhémie voulait leur redonner cette nouvelle sensibilité que dans le fond, les choses peuvent être autrement. Comme tantôt dans les nouvelles, on peut s'habituer aux nouvelles que les choses vont mal dans le monde, mais perdons pas cette sensibilité que ça peut être autrement, ça peut être différent dans notre monde, ça peut être, on n'a pas à prendre le statu quo ou l'état des choses telles qu'elles sont actuellement pour acquis et juste s'accommoder de cette situation-là, mais Dieu veut nous utiliser pour changer la réalité présente. Passons à l'action, reconstruisons cette muraille et on sera plus dans un malheur ou un déshonneur tel que nous sommes en ce moment. Et je suis sûr que s'il avait arrêté là, s'il avait juste dit « Hey, ça va mal, les murailles sont à terre, mais let's go, rebâtissons, puis on va plus être dans le malheur », je suis pas sûr que ça aurait convaincu tout le monde. Mais dans le texte, c'est écrit, et je leur racontais, verset 18, « Je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu était sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. » Et ensuite, ils dirent « Levons-nous et construisons, rebâtissons. » Donc, en voyant comment est-ce que Dieu est à l'œuvre, en voyant comment est-ce que le roi a béni Néhémie, les autres ont embarqué parce qu'ils voyaient que ça venait de Dieu. Êtes-vous capable de voir quand Dieu est à l'œuvre à un endroit et de vous joindre à ça? Je crois que oui. En tant qu'Église, vous avez fait ce mouvement, ce saut de déménager de l'Ordre des Ormeaux ici. Continuons d'avoir ces perceptions sensible à l'œuvre de Dieu pour nous joindre à son œuvre dans le monde. Deuxième point, la vision attire l'adversité. Les choses sont plus difficiles que qu'est-ce qu'on l'imagine au premier abord. Quand on a une vision pour Dieu, quand on veut vraiment avoir un impact pour lui, il y a quelqu'un qui ne sera pas content. Vous êtes d'accord? On a des ennemis dans le monde spirituel et ces ennemis dans le monde spirituel parfois peuvent même, s'incarner ou du moins influencer des acteurs humains. Et dans ce cas-ci, on le voit dans les versets 9 et 10 et 19 que ces personnes qui vont s'opposer sont Tobia et Sanballat, qui représente bien, dans le fond, l'opposition à Dieu. C'est intéressant que au verset 9, Néhémie fait juste passer aux frontières. Néhémie n'a même pas, il a pas encore partagé sa vision, il n'a pas encore commencé à travailler dans le sens de sa vision. Il a juste passé aux frontières et le fait de passer aux frontières demande de partager les lettres provenant du roi. Donc, son plan est connu de la part des autorités en place. Et dès là, c'est décrit tout de suite après, Sanballa le Horonite et Tobia le serviteur ammonite, l'ayant appris, prirent très mal le fait qu'un homme soit venu pour chercher le bien des fils d'Israël. Sa vision est encore cachée, secrète, puis elle est à peine révélée à d'autres personnes que déjà l'ennemi est pas content. Déjà l'ennemi commence à cogiter, penser comment est-ce que je peux aller à l'encontre d'eux. Et si vous voulez faire la différence pour Dieu, vous voulez avoir un impact, attendez-vous à avoir l'adversité. C'est normal, c'est sûr. Satan va toujours attaquer les personnes qui veulent être actives dans leur foi. D'abord, il attaque plus les chrétiens que n'importe quel autre être humain, parce qu'il sait très bien que les chrétiens ont une mission, ont un appel à faire une différence en ce monde, à communiquer la bonne nouvelle, autant par des paroles de vie que par des actions d'amour. Donc déjà, il cible les chrétiens, mais si en plus, dans la gang des chrétiens, vous voulez faire la différence et vous voulez être intentionnel pour faire pour avoir un impact pour Dieu, ben attendez-vous à avoir de l'adversité, parce que l'ennemi n'aimera pas ça. Et il va être prêt à déployer une panoplie de stratégies pour nous en empêcher. C'est vraiment intéressant. J'ai répertorié dans le livre de Néhémie toutes les stratégies que Sanballat et Tobia vont mettre de l'avant pour empêcher Néhémie d'accomplir. Et j'en ai répertorié 6. Et j'ai fait un top 5, fait qu'il y en a une que vous saurez pas, c'est pour vous laisser votre curiosité insatisfaite. Mais regardons les stratégies que Tobia et Sanballa vont mettre de l'avant. La première, susciter la crainte par des rumeurs et l'opinion publique. Ça, c'est probablement une des plus grandes stratégies qui revient souvent de la part des ennemis de Néhémie. Ils vont toujours vouloir jouer avec ce que les autres vont en penser. Comment est-ce que les rumeurs vont se développer que, dans le fond, vous allez vous révolter contre le roi et puis finalement, le roi va venir avec son armée puis va tout vous anéantir et puis vous allez pas réussir. Et il joue beaucoup, beaucoup avec cette crainte-là. Lisons par exemple versets 19 et 20 qui étaient dans le texte. C'est la première tactique. Sanballa le Horonite, Tobia le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, l'ayant appris, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, « Que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? » Déjà, c'est comme, il veut jouer avec les perceptions que les autres vont avoir de ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, on va revenir un peu plus tard là-dessus, mais cette perception que les autres vont avoir de nous, est-ce que ça va réussir à nous faire dévier de ce que Dieu nous appelle à faire? Et puis ça, c'est vraiment important pour nous de nos jours, je pense, parce que on est en minorité, les chrétiens, right? Surtout au Québec, les chrétiens évangéliques sont très peu nombreux. On est quoi, 1 ou 2 %? Fait que quand on se tient pour nos valeurs, je pense, cette semaine, une de mes sœurs à Gatineau, dans l'église de Gatineau, elle s'est tenue par rapport à sa position sur, vous savez, peut-être vous avez entendu parler de ce programme qu'il y a dans les garderies, là, où est-ce qu'on veut déjà parler aux enfants de 5-6 ans des orientations sexuelles. Vous avez entendu parler de ça? Donc, elle a partagé son point de vue, qu'elle était en désaccord avec ça, et le nombre de personnes qui presque la traitaient d'homophobe juste parce qu'elle disait qu'elle n'était pas d'accord avec ça, c'était incroyable. Une pression, l'opinion publique ou le monde exerce une pression sur le peuple de Dieu pour les empêcher d'aller de l'avant avec leur mission, avec leur vision, avec leurs valeurs. Et ça, faut être prêt. Il faut être prêt à vivre avec cette pression-là. Il faut l'accepter, puis il faut puiser notre force en Dieu, que malgré que il y a cette pression-là, faut continuer à faire la bonne chose. Coluche, je sais pas c'est qui Coluche, mais je sais que c'est Coluche qui a dit ceci. Coluche a dit ceci. Vas-y, Laurie. OK, donc un humoriste qui était engagé sur le plan politique en France. Bon. J'ai juste fait une citation que j'aime bien. Je sais pas, je connaissais pas comme la personne, mais Coluche a dit, ce n'est pas parce qu'ils sont plusieurs à avoir tort qu'ils ont raison. Ce n'est pas parce qu'ils sont plusieurs à avoir tort qu'ils ont raison. C'est pas la majorité ou la démocratie qui établit la vérité. La vérité, elle est objective et elle est indépendante de ce qu'on en pense ou du nombre de personnes qui y adhèrent ou pas. Et puis ça, pour nous, en tant que chrétiens, il faut se le rappeler, il faut l'accepter, puis il faut persévérer là-dedans. Deuxième chose, c'est Sanballat et Tobia vont menacer d'attaquer physiquement de manière subite pour détruire le travail accompli. Et ça peut tellement être décourageant, puis parfois, de juste devoir recommencer ou juste de pas voir le fruit de notre travail dans le Seigneur, qu'on se démotive. Et puis, même si, disons, imaginons qu'ils ont reconstruit la moitié de la muraille et que là, effectivement, Tobia et Sanballat débarquent avec son armée et réussissent à détruire juste la moitié de ce qu'ils avaient fait, ils avaient réussi à faire jusqu'à ce moment-là. C'est sûr que la motivation des troupes de Néhémie serait coupée de moitié parce que tu travailles fort, puis là, ton travail est défait. Et là, ça te décourage de continuer de t'investir dans cette voie-là. Un autre exemple, je ne sais pas si j'ai déjà mentionné dans mes prédications, mais quand je travaillais dans la construction, on faisait pas des blocs d'appartements, mais des résidences pour personnes âgées. Puis c'était beaucoup de condos et c'était très répétitif. Puis à un moment donné, mon superviseur vient, il me montre qu'est-ce que je dois faire sur le système, c'est un système de ventilation, chauffage, climatisation. Puis là, il fallait que je me penche avec, là, j'avais des petits jeux de lumière, puis là, c'était tout dans un angle super dur, là, puis là. Fait que là, il me le montre une fois, fait que là, il me dit, OK, t'en as comme, je sais pas moi, 120 à faire comme ça, tu sais. Fait que, OK, bon, mais fait que je commence, puis tu sais, c'était vraiment, ça faisait mal au dos, c'est comme ça. Fait que là, je fais 2 étages sur 4, je fais la moitié. Puis, à un moment donné, les électriciens passent derrière moi, ils installent l'électricité. Et là, moi, il faut que je repasse et que je fasse mes tests pour voir si tout va bien. Fait que là, je passe, que j'ai pas complété encore, mais je check déjà celle que j'ai faite. Et là, je check la première. Puis là, comme ça part pas, rien, zéro. Fait que là, bon, OK. Je passe à la deuxième, ça rien fonctionne. Je passe à la troisième, rien fonctionne. OK, là, il y a un problème qui est répétitif partout. Et là, finalement, j'essaie de voir ça, puis là, je me rends compte que mon superviseur m'a mal montré. Il a fait une erreur dans la façon qu'il me l'a dit. Et puis, là, il vient, il check ça. Ah, c'est vrai. Non, je vais le faire comme ça. Fait qu'il faut tout repasser puis refaire la moitié que tu as faite, là, 2 étages, 60. Là, avec le dos courbé comme ça, là, faut tout refaire. C'est pas grave, t'es payé, hein? Même si je payais, c'est décourageant. Même si je payais, c'est comme démotivant. C'est parce qu'on n'aime pas recommencer notre travail. On aime que notre travail ait un sens, qu'on avance, qu'on voit la différence qu'on fait. Fait que Tobia et Sanballat veulent détruire le travail. Ils veulent faire reculer. Puis, ils menacent même physiquement. Donc, même si on voit pas toujours les fruits dans le Seigneur, ou même parfois s'il y a des fruits qu'on a réussi à avoir, qui sont perdus, ne nous décourageons pas, parce que le Seigneur, même si parfois on semble reculer, lui, il sait que dans sa vie d'ensemble, on avance quand même. OK, une autre tactique, isoler le leader pour l'attaquer. Regardons verset 6, 2, et 6 et versets 6 et 7. Donc, un peu plus loin dans Néhémie. Quelqu'un veut lire le verset 2? Voyez-vous, d'un côté, il veut l'attirer, l'isoler on va se parler. Mais, une tactique, c'est d'isoler le leader pour l'attaquer. Mais aussi, en même temps, qu'est-ce qu'il fait? Il joue encore avec la première tactique, susciter la crainte par des rumeurs et l'opinion publique. Fait que, imaginez, là, il y a même des tactiques sur comment employer les tactiques. On peut les mélanger, c'est plus efficace. Un peu plus tard, en fait, c'est dans ce même passage-là. Il envoya 4 fois le même message et leur rendit la même réponse. Puis là, Sanballat m'envoya ce même message 1/5e fois par son jeune serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Fait qu'on peut mélanger les tactiques, on peut aussi insister sur une même tactique, mais l'ennemi a plein de tactiques. Puis on voit dans ce passage-là que isoler le leader, oui, isoler le chrétien. Si Satan peut isoler les chrétiens, les convaincre que l'Église, c'est pas si important, que dans le fond, ce qui compte vraiment, c'est ta relation personnelle avec Dieu, puis une vraie spiritualité, pas besoin de religion, comme on a dans l'Église. Si Satan peut convaincre les chrétiens de ça et les isoler, ça va être bien plus facile de les attaquer après, puis réussir à leur faire perdre leur vision, à les décourager de vraiment s'investir concrètement dans l'œuvre de Dieu. Donc, l'isolement, c'est une tactique que l'ennemi va employer. Faire péché pour détruire la réputation. Et je vais mettre l'autre aussi. S'infiltrer, parce qu'en fait, il va aussi employer ces deux tactiques-là ensemble. Dans ces passages-là, vous irez les lire 6, 10, 14. En fait, disons 10 à 19, là. Ils vont même, Sanballat et Tobia vont même acheter des personnes, vont soudoyer des personnes qui sont dans l'entourage de Néhémie pour des prophètes, même des personnes, des hommes de Dieu, là, des personnes qui ont de l'autorité sur le plan spirituel aux yeux de Néhémie. Ils vont même les acheter pour convaincre Néhémie d'aller dans le temple et puis de se protéger parce que Sanballat est supposé s'en venir et d'arriver à l'instant même pour le tuer. En faisant ça, il réussirait à faire pécher Néhémie et détruire sa réputation. Mais Néhémie voit clair dans le jeu et puis il dit non, ça vient pas de Dieu. Même si c'est un prophète, là, c'est un faux prophète. Parce que je sais ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que je dois pas aller dans le temple à cet endroit-là comme tu le proposes. Et puis, c'est juste une tactique pour me faire dévier de la vision du plan que Dieu m'a donné. Donc, l'infiltration, c'est plein de tactiques. C'est bien d'être à l'affût de ces choses-là puis d'avoir du discernement alors qu'on veut avancer dans le Seigneur, dans notre marche. Donc, troisième point, Dieu accomplira la vision par ses serviteurs. Permettez-moi de revenir juste un peu avant. Une des personnes, ou probablement la personne dans l'histoire de l'humanité qui avait une vision le plus définie et plus claire de A à Z, c'est clairement Jésus. Jésus, à 12 ans, lorsque ses parents l'ont trouvé dans le temple, vous connaissez l'histoire probablement la plupart d'entre nous. Pourquoi est-ce que vous me cherchiez? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Très clair, à 12 ans, que Jésus, il sait qu'il doit s'occuper des affaires de Dieu, son père. Plus tard, dans son ministère, il va dire des choses comme Luc 19, verset 10. « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Il sait pourquoi il est venu sur la terre. Dans Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait la vie en abondance. » Je pourrais continuer. Jean 18, verset 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né et voici pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. » Donc, et même, je dirais même que le dernier cri que Jésus a donné, ou un des derniers cris sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Je dirais que même ça, c'était une expression de sa vision et du sens que sa vie prenait. En plus de son expression d'abandon. Pourquoi? Parce que si on va lire le psaume 22, auquel cette phrase-là fait référence, c'est la première phrase du psaume 22, si on va lire le psaume, il y a une description extraordinaire de la crucifixion. Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont vendu mes vêtements, une bande de scélérats m'entoure. Et toute la description qu'on fait de Jésus à la crucifixion est présente dans le psaume 22. Et puis aussi, c'est écrit dans le psaume 22, il le délivrera car il l'aime. L'Éternel va délivrer cette personne-là car il l'aime. Et puis, dans Matthieu, ça dit même que Dieu te délivre s'il t'aime. Donc, c'est comme si Jésus, il est en train de dire, OK, oui, je me sens abandonné à cette heure de mon père, mais allez lire le psaume et puis je suis exactement au cœur de la volonté de mon Dieu. Et puis, je suis en train d'accomplir une prophétie et je suis exactement là aussi planifié. Donc, je crois vraiment que Jésus est notre modèle par excellence concernant la vision. Et puis, c'est juste bon de se souvenir, c'est notre Seigneur, c'est notre Dieu, c'est celui qu'on veut imiter. Et puis, il incarne très bien ce que Néhémie aussi incarnait. Donc, dernier point, le succès selon Dieu. J'aimerais qu'on lise ensemble le verset 19. Là, je reviens dans Néhémie, au chapitre 2. Encore Sanballat, le Horonite, Tobia, un serviteur ammonite et Geshem, l'Arabe. L'ayant appris que tout le monde veut reconstruire la muraille, ils se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, « Que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? » Puis à ce moment précis, moi, si j'étais à la place de Néhémie, ce que j'aurais répondu, c'est quelque chose de différent que lui. À ce moment-là, si on m'accuse de vouloir me révolter contre le roi, j'aurais sûrement dit quelque chose comme « T'es qui, toi? » Moi, j'étais en présence du roi. Moi, j'ai partagé mon projet au roi en personne. Moi, j'ai eu son approbation et c'est même lui qui fournit tout le matériel et qui finance tout mon projet. T'es qui, toi, pour venir nous dire des faussetés, des rumeurs comme ça? Tu es juste quelqu'un qui veut semer le trouble. J'aurais gardé ça entre moi, le roi, eux et le peuple qui est avec moi. Mais c'est pas comme ça que Néhémie répond. Lui, il répond pas en disant que ah non, le roi donne lui-même son approbation au projet. Regardez comment il répond au verset 20. Je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. C'est pas moi qui va réussir à amener cette vision-là à terme, qui va réussir à apporter le peuple de Dieu dans une nouvelle étape. C'est Dieu au travers de nous qui va nous donner le succès, et puis toi, tu réussiras pas à nous en empêcher. C'est Dieu. Néhémie a une vision vraiment comme orientée vers Dieu. C'est pas sa vision personnelle, c'est la vision que Dieu a déposée dans son cœur, et il y a vraiment cette confiance, cette conviction-là, cette foi-là. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni droit, ni part, ni souvenir dans Jérusalem. Donc, c'est Dieu qui va accomplir la vision par ses serviteurs. De la même manière, aujourd'hui, Dieu veut accomplir sa vision par nous. Quel privilège que c'est de pouvoir nous joindre à la construction de la muraille, si on veut, de Jérusalem, de la Jérusalem moderne qui est spirituelle. Et le succès selon Dieu, c'est quoi? Le succès, je vais juste me retrouver là. Le succès vient de Dieu et Dieu définit le succès différemment que le monde. Le succès est la bénédiction pour ceux et celles qui vivent leur vie chrétienne avec une vision ancrée en Dieu. Okay, versus les ennemis du peuple de Dieu, on voit ça dans le verset 20. Okay, voici la définition du succès. Le succès est d'avoir part à la nouvelle Jérusalem et de conserver éternellement un bon souvenir de l'investissement que nous aurons fait de notre vie. Parce que regardez le verset 20. Je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, on va se lever, on va bâtir. Mais vous, vous n'aurez pas de succès. Vous, c'est quoi vous allez avoir? Vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Vous connaissez les Cowboys fringants, ce groupe de musique québécois. J'aime beaucoup la chanson « Étoile filante ». Dans cette chanson, il pose une question. « Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Eh, » eh. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Ouais. Quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qui va rester? Selon eux, des étoiles filantes. On brille, puis on disparaît, puis c'est tout. C'est fini. Mais, selon Néhémie, il va rester des souvenirs. Et puis, c'est entre autres ça le succès. C'est que quand on arrive à la fin, quand que je regarde mon arbre généalogique, puis à la fin, je puisse dire que Dieu se souviendra de moi favorablement. C'est vraiment un refrain dans le livre de Néhémie. Je vais lire rapidement, je pense que j'ai écrit les références, si vous voulez, au tableau. Le souvenir dans le livre de Néhémie est très important. Et c'est toujours, Néhémie va toujours parler du souvenir alors qu'il prie Dieu. C'est toujours dans une prière qu'il va parler du souvenir, puis il va toujours demander à Dieu, « Seigneur, souviens-toi d'eux. » Et regardez par exemple verset plutôt chapitre 5, verset 19. Souviens-toi favorablement de moi, ô Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Chapitre 6, verset 14. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobia, de Sanballa et de leurs œuvres, et aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à me rendre craintif. Et là, il y a quatre mentions dans le chapitre 13, verset 14. « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'efface pas les actes de piété que j'ai accomplis à l'égard de la maison de mon Dieu et de ses observances. » Verset 22, « Je dis aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Pour cela aussi, souviens-toi de moi, ô mon Dieu, et protège-moi selon ta grande bienveillance. » Verset 29, « Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce de l'alliance des sacrificateurs et des Lévites. » Et enfin, le tout dernier verset, la toute dernière phrase du livre de Néhémie, les conclusions des livres bibliques sont toujours importantes. Et la dernière phrase du livre de Néhémie, c'est « Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. » Seigneur, que je puisse arriver dans ta présence, hein, puis que tu sois fier de moi, que tu te souviennes de moi, là, puis que mon passage sur la terre, là, puis que tu sois fier de moi, que tu aies un bon souvenir de comment j'ai investi ma vie que tu m'as prêtée. C'est le succès selon Dieu. Permettez-moi de vous lire une section d'un livre. En fait, c'est une page d'un livre. Le titre du livre, c'est Kazon. Kazon, c'est un mot hébreu qui veut dire vision. Et c'est le tout début du livre, puis c'est vraiment quand même frappant, je trouve, puis je voulais vous le partager. Okay. La plupart des gens meurent d'une mort lente. Pensez à ça. Il y a ceux qui partent soudainement. Un accident, une crise de cœur, une fusillade de gang de rue. Mais pour vous, les chances sont qu'à la fin de votre vie, vous allez mourir dans un lit et vous attendrez. Alors que vous attendrez, vous aurez fort probablement des jours, des semaines et même des années pour penser, pour réfléchir à votre vie passée. Imaginez-vous rendu là, étendu dans votre lit, réfléchissant, relisant les chapitres de votre vie. Comment résumerais-je ma vie? Ai-je vraiment été important? Dans quel but ai-je vécu? Qui se souviendra de moi? Que dira-t-on de moi quand je serai parti? Pourquoi était-ce important que j'existe? Beaucoup de questions, beaucoup de temps. Serez-vous couché là avec aucun regret, quelques regrets, seulement que des regrets? Imaginez. Wow! Pour moi, ça vient me chercher et puis ça m'incite vraiment à réfléchir à ma vie dans son ensemble, mais aussi étape par étape, comment je veux vraiment maximiser mon impact pour Dieu. Nous avons un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu plein de compassion et un Dieu qui va nous accueillir éternellement dans sa présence, non pas parce qu'on va avoir réalisé des grands projets comme Nini, non pas parce qu'on va avoir fait des grandes actions, des grandes réalisations, etc., mais parce qu'on croit en Jésus, qu'on a la foi en lui, qu'on l'aime sincèrement, puis qu'on s'est repenti. Puis c'est le sacrifice de Jésus à la croix qui nous permet cet accès aux cieux, à la vie éternelle. Et puis, merci Seigneur, on a cette paix-là. Mais néanmoins, nous souhaitons tous terminer la course avec fierté, non seulement d'avoir tout donné, mais aussi d'avoir donné intelligemment ce que nous pouvions, d'avoir bien investi ces talents que Dieu nous a confiés. Comment est-ce que votre vision pour Dieu, cette vision que Dieu met dans vos cœurs par vos valeurs, comment est-ce que cette vision-là peut s'aligner avec l'Église, peut s'aligner avec notre Assemblée? Je vous invite, alors qu'on va bientôt approcher, on approche septembre, je vous invite de réfléchir à ça. Quelles sont vos valeurs? Quelles sont cette vision? Comment est-ce que cette année, en 2014-2015, vous voulez investir votre vie pour Dieu et avoir un impact pour lui? Donc, conclure. On a vu trois choses. Premièrement, partager adéquatement votre vision. Il y a un temps pour toutes choses. Puis aussi, il y a des personnes peut-être à qui partager votre vision plus que d'autres. Je me souviens quand que J'ai décidé de changer de théologie, de mon plan, ma vision de devenir ingénieur pour étudier en théologie. Une personne qui était très proche de moi, qui n'est pas chrétienne, quand je lui ai partagé ma vision, là, il y a eu un silence au téléphone. Et après ça, la personne me dit, est-ce que c'est une joke? Ça marque. On partage pas notre vision à n'importe qui ou n'importe quand. Il y a un temps pour toute chose. Et puis, c'est important de la communiquer avec les personnes qui vont la stimuler, qui vont l'encourager, qui vont aider à discerner. Mais il y a un temps pour partager adéquatement notre vision. Deuxième chose, attendez-vous à l'adversité. Faut continuer, faut persévérer. Faut pas se lasser de faire le bien. Et troisième chose, c'est Dieu qui va nous donner le succès. Et puis, on a déjà cette vie éternelle qui nous attend. Quelle grâce de pouvoir faire une différence pour lui dans le monde. Je finis avec cette citation. Tout le monde termine quelque part, mais seulement quelques-uns terminent quelque part intentionnellement. Prions. Seigneur Dieu, on veut te louer pour ta présence en ce lieu ce matin et pour ta parole qui est tellement encourageante. Et Seigneur Dieu, que tu puisses, Seigneur, dans ta grâce, venir simplement nous montrer, Seigneur, comment tu veux qu'on investisse les prochains mois, comment tu veux qu'on serve dans l'Église, comment mettre en pratique nos dons spirituels, comment servir dans tel ou tel ministère, comment maximiser notre impact, Seigneur Dieu, et puis vraiment prendre ces temps dans ta présence pour te laisser nous parler, te laisser nous montrer des choses. Et Seigneur, je te demande vraiment de nous aider à voir même les petites choses auxquelles tu nous appelles à faire. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. Seigneur, tu veux nous confier des petites choses, je suis sûr. Et aide-nous à être sensibles à la voix de ton esprit, Seigneur, pour percevoir ça et puis vraiment être fidèle en toutes choses. Et qu'on puisse vraiment chercher à te plaire au quotidien pour qu'en bout de ligne, à la fin de notre vie, lorsqu'on pourra la regarder, regarder chaque chapitre comme un livre, on puisse être fier et qu'on puisse dire... Seigneur, souviens-toi de moi favorablement. Et merci pour chaque personne qui est ici, Seigneur. Puisses-tu les bénir abondamment et puis puisses-tu faire mijoter ces paroles dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen.